Il y a quelques jours, en regardant un documentaire sur une affaire paranormale aux États-Unis, je me suis fait la réflexion suivante. Dans ces histoires américaines, il y a toujours un témoin pour lâcher un « quelqu'un est mort ici » qui permet de justifier la présence de phénomènes paranormaux. Il faut dire que tout ce qui vient des Occidentaux est plutôt récent dans ce pays, et les maisons ne sont pas toutes là depuis des siècles et des siècles comme c'est le cas en Europe. Entre nos ruines, nos grottes, nos cimetières, nos cathédrales et nos catacombes, il y a de quoi se demander s'il n'y a pas finalement plus de morts que de vivants dans notre pays. Alors bon, un fantôme de plus ou de moins, finalement, ça fait pas tellement la différence. Mais le temps passe, les racines de la colonisation de l'Amérique s'éloignent, et au fur et à mesure, les spectres s'empilent eux aussi, pour peu qu'un bâtiment tienne assez longtemps debout pour les accumuler. Et si on a de la chance, on peut trouver des lieux qui sont là depuis le XVIIIe siècle, et qui ont vu passer tellement d'horreurs que leur réputation ne s'en est jamais remise. C'est le cas de la King's Tavern. Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp saison 5, le podcast énergie qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. Mettez-vous à l'aise, posez vos sacs près des escaliers et rejoignez-moi donc au comptoir d'une petite auberge située au fond du Mississippi, dans la ville de Natchez. Elle est fermée définitivement, mais rien que pour nous, elle fera une petite exception aujourd'hui. C'est un bâtiment assez unique qui, dès sa construction, partait déjà avec un lourd passé sur le dos, puisqu'elle a été bâtie à l'aide des restes des bateaux qui transportaient des marchandises jusqu'à la ville. Le courant étant trop fort pour repartir dans le sens inverse, ils étaient démantelés une fois leur cargaison déchargée et le bois était réutilisé. Au départ, le lieu n'était pas une taverne, mais un poste de surveillance pour l'armée britannique, jusqu'à ce qu'elle soit chassée par les révolutionnaires américains. En 1789, un New-Yorkais du nom de Richard King rachète la bâtisse, qu'il convertit en auberge et en bureau de poste. Il s'y installe avec sa famille. C'est là qu'elle prend le nom de King's Tavern. Le lieu devient rapidement le cœur de toutes les activités sociales du coin. Richard et sa femme deviennent des célébrités locales, fiers d'être les tenanciers du spot le plus chaud de la région. C'est un peu le PMU de la place du village, le lieu où tous les liens se forment, où l'on se retrouve pour jouer, boire, manger, commercer et échanger les potins du moment. Mais toute la clientèle de la taverne n'a pas forcément bonne réputation. C'est aussi là que les truands et les pirates de rivière viennent repérer leurs futures victimes. Beaucoup de voyageurs y passent, et comme ils sont forcés de prendre tous leurs biens les plus précieux avec eux pour traverser le pays, ce sont des cibles idéales. Et à la fin du XVIIIe siècle, le nom de bandit qui est sur toutes les lèvres est celui des frères Harp, que l'on considère aujourd'hui comme les premiers tueurs en série de l'histoire des États-Unis. Selon les rumeurs locales, ils étaient des clients réguliers de la taverne, qui leur servait de terrain de chasse. Ils y venaient pour identifier quels voyageurs feraient des proies faciles, puis pour dépenser l'argent volé par la suite. Et il se pourrait qu'ils aient même tué quelques-uns de ces voyageurs et marchands sur place, en toute impunité. Ceux qu'on appelle Big Harp et Little Harp sont d'anciens soldats qui ont servi le roi d'Angleterre lors de la Révolution américaine et qui ont quitté le chemin de la loi après la fin de la guerre. Depuis ce changement radical, ils terrorisent la région et sont connus pour leur soif de sang et de violence, plus que par leur intérêt pour l'argent. Lorsqu'ils passent aux aveux quelque temps avant d'être exécutés par une horde de citoyens en colère, ils admettent avoir tué 39 personnes. Mais d'autres estimations portent le total à 50 victimes. Ils sévissent dans le Tennessee, le Kentucky, l'Illinois et le Mississippi et sont connus non seulement pour tuer de sang-froid, mais surtout pour torturer et mutiler les pauvres gens qui tombent entre leurs griffes, sans l'ombre d'un remords. Le seul crime que Big Harp dit regretter est celui de son nouveau-né, en 1799, qu'il tue violemment pour le faire taire, agacé par ses pleurs constants. Lorsqu'on fouille un peu dans les archives historiques pour en savoir plus sur les crimes commis par les frères Harp, du moins ceux qui ont pu leur être attribués avec certitude, on prend rapidement conscience de l'ampleur de leur monstruosité. Je ne me risquerai pas à détailler les crimes en question ici. Comme toujours, par respect pour les victimes et parce que je préfère éviter ce genre de voyeurisme, Mais la mort du fils de Big Harp devrait vous donner un indice sur les atrocités dont les frères étaient capables. Aucune tranche d'âge, aucun statut social, aucune donnée quelconque ne dispensait les gens des environs d'atterrir entre les mains des deux hommes. De toute façon, c'est bien simple. Il vous suffit d'imaginer toutes les manières les plus violentes de tuer un être humain et vous tomberez forcément sur un mot-clé associé à leur meurtre. Et là, vous vous dites, le pauvre Richard King, dont la taverne devient le lieu de détente de ces terribles bandits. N'ayez pas de compassion, car lui aussi a du sang sur les mains. Devant le succès grandissant de sa taverne, il décide d'embaucher du petit personnel pour l'aider à maintenir son business à flot, et notamment une femme de chambre nommée Madeline. Elle est jeune, belle et virginale, et bien sûr, le pauvre Richard ne peut s'empêcher de la séduire. On ne sait évidemment pas si Madeline a eu son mot à dire dans l'histoire, mais la légende la décrit comme la maîtresse du propriétaire. Lorsqu'elle découvre ce qui se trame derrière son dos, la femme de Richard profite d'avoir accès à tout un tas de criminels via sa clientèle pour commanditer le meurtre de la jeune femme, dont le corps n'est pas retrouvé. Pour la majorité des gens qui la connaissent, elle a simplement disparu. Alors naturellement, quand on additionne toutes ces histoires et qu'on les met dans un décor unique, ça laisse des traces indélébiles. Mais dans les années 1930, des preuves plus concrètes sont retrouvées, ajoutant d'autres pierres à la réputation déjà bien terrifiante du lieu. Trois cadavres momifiés sont retrouvés emmurés dans la taverne. Deux des corps sont des hommes, et certains pensent qu'il s'agit de victimes des frères Harp. Mais le troisième corps est féminin. À ses côtés se trouve une vieille dague ornée de pierres précieuses. Pour ceux qui font la découverte, il n'y a aucun doute sur son identité. C'est la pauvre Madeline, accompagnée de l'arme qui l'a tuée. Depuis ce tragique événement, et même après la découverte de ce qui semble être son cadavre, Madeline se manifeste à plusieurs reprises auprès des gens qui s'arrêtent à l'auberge, que ce soit le temps d'un repas ou d'une nuit à l'étage. Ses apparitions sont parfois subtiles et prennent la forme d'empreintes de pas sur le sol, mais les plus chanceux ont le privilège de la voir apparaître en entier, vêtue de sa tenue de domestique de l'époque, le temps de quelques secondes. Il arrive aussi qu'elle se manifeste brutalement, en faisant tomber des bocaux des étagères, par exemple. Plusieurs témoins remarquent que, lorsque son nom est prononcé à voix haute, des portes se mettent soudain à s'ouvrir et à se fermer toutes seules. Plusieurs chasseurs de fantômes arrivent même à enregistrer sa voix, qui crie simplement
« Help ».
Madeline n'est pas la seule à hanter les lieux, simplement celle qui a l'histoire la plus documentée et à qui on a pu trouver un nom. D'autres manifestations perturbent régulièrement les visiteurs, comme cet enfant qui se met à pleurer au milieu de la nuit, alors que personne ne se trouve dans les environs. Être réveillé par les pleurs d'un enfant en pleine nuit, c'est pénible. Être réveillé par les pleurs d'un enfant fantôme, c'est pénible et flippant. Il n'y a pas vraiment grand-chose de pire. Enfin, si. Il y a les phénomènes qui vont au-delà du son et des visions fantomatiques. Celles qui vous prennent littéralement à la gorge. Plusieurs personnes ayant passé la nuit à l'auberge racontent avoir été réveillées par une sensation d'étranglement, comme si quelqu'un était couché sur eux et leur serrait le cou de plus en plus fort. Ce petit moment d'intimité nocturne semble être offert par un spectre à l'apparence masculine, portant à haute forme et dont l'énergie néfaste se ressent jusque dans la moelle tant elle est puissante. Son visage apparaît d'ailleurs parfois dans le miroir d'une chambre de l'étage, assurant à la personne qui y séjourne de garder un souvenir impérissable de sa nuit à l'auberge. Bien qu'aucun des frères Harp ne soit mort dans les environs de la taverne, les gens supposent qu'il s'agit de l'un d'entre eux. Puisqu'ils ont beaucoup fréquenté l'endroit, au point d'y laisser au moins deux de leurs victimes, il n'est pas impossible qu'ils s'y rendent de temps en temps, peut-être par nostalgie, peut-être par obligation karmique. Je ne connais malheureusement pas assez bien les règles de la vie posthume, mais j'y travaille. En novembre 2000, une équipe de tournage se rend sur les lieux pour enquêter sur les phénomènes paranormaux qui y sont régulièrement observés. Alors qu'ils sont certains de ne pas trouver grand-chose, ils sont surpris de découvrir que le lieu est bel et bien actif et loin d'être avare en manifestations diverses et variées. Par exemple, ils observent plusieurs ombres étranges qui ont presque l'air de danser sous leurs yeux, alors qu'aucune source tangible n'est trouvée pour expliquer leur présence. Lorsqu'ils essayent de filmer un portrait qui représenterait soi-disant la fameuse Madeline, les caméras se mettent à grésiller et les batteries sont drainées en quelques secondes. Dans une des chambres, qui est pourtant vide, ils entendent une voix féminine sortir de nulle part. La tension monte d'un cran lorsqu'un membre de l'équipe sent une main descendre le long de sa nuque et lui tapoter le dos. Pour les employés de la taverne, rien de tout ça n'est très surprenant. Il leur arrive régulièrement d'être témoins des mêmes phénomènes, et ils ont fini par en prendre l'habitude. Ils ont même réussi à filmer les portes des frigos de la cuisine qui s'ouvrent toutes seules via leur caméra de sécurité. Il s'agit de grands frigos professionnels, dont les portes sont lourdes et se ferment à l'aide d'un mécanisme solide. Pas le genre de camelote en plastique qui s'ouvre au moindre courant d'air. Malheureusement, la taverne a fermé ses portes définitivement en 2020, et il n'est plus possible d'aller y manger. Ses derniers propriétaires avaient réussi à en faire un restaurant réputé, où l'on servait aussi de délicieux cocktails, et les gens n'y venaient plus seulement pour son histoire, mais aussi pour sa carte. Peut-être que les fantômes sont soulagés d'être enfin seuls. Peut-être aussi que Madeleine est plus désespérée que jamais, n'ayant plus personne pour entendre ses cris de détresse et lui donner l'illusion qu'elle peut encore être sauvée de son triste sort. Alors oui, un lieu qui ferme ses portes, c'est souvent une tragédie humaine et une catastrophe financière pour ses propriétaires et son personnel. Mais on ne pense jamais aux victimes immatérielles. Qui se soucie des revenants qui n'ont plus personne à hanter? De ces voix désincarnées qui n'atteignent plus les oreilles des vivants? De ces portes qui s'ouvrent seules, sans témoins? Le fantôme qui hurle seul dans une maison abandonnée fait-il du bruit si personne n'est là pour l'entendre? Moi, ça me brise le cœur. On devrait mettre en place un service de babysitting pour les fantômes, un genre d'organisme dont les membres se sacrifieraient pour vivre dans les lieux hantés inhabités pour tenir compagnie aux spectres. Des gens capables de surjouer la peur et de prendre toutes les décisions les plus bêtes pour garantir un divertissement sans fin à ceux qui sont coincés dans l'au-delà pour l'éternité. Un peu de pitié pour nos morts, que diable. Et si l'histoire de King's Tavern vous a séduit, sachez que Corinne Hardy, qui a réalisé La Nonne en 2018, est actuellement en train de préparer un film intitulé Lure, dont l'action se déroulera entre ses murs. Si vous le croisez, dites-lui que je suis dispo pour jouer Madeleine. Surtout si ça implique de balancer des bocaux à travers la pièce et de faire sursauter les gens qui se regardent dans un miroir. Merci d'avoir écouté Feu de camp, un podcast énergie produit par Paradiso Media, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Gérald Doret.